Bruit de tôle, une émission qui veut agir pour la suppression des prisons et pour la remise en cause du principe de punition et de contrôle. Nous voulons nous attaquer aux murs, plus ou moins visibles, des institutions qui diffusent l'enfermement et la soumission dans tous les plis de la société, comme la famille, l'école, l'hôpital, les maisons de retraite, celles de la culture et bien d'autres. Le système judiciaire resserre l'étau sur les pauvres et les insoumis, les classes dangereuses en somme. Il enferme de plus en plus tôt, sous prétexte de délinquance juvénile, de plus en plus souvent, en allongeant la liste des délits et pour des peines de plus en plus longues. Et malgré une croyance tenace qui veut que la prison soit toujours réservée aux autres, la menace permanente qu'elle laisse planer sur l'ensemble de la population entretient la peur et la soumission. Longtemps tabou, la prison est devenue un sujet médiatique à la mode pour spécialistes de toutes sortes, sociologues, médecins, criminologues, politiques, occultant toujours la parole des personnes enfermées. Bruit de tôle se veut un espace de réflexion sur les enfermements, un lien entre l'extérieur et l'intérieur des murs. Ce que nous voulons, c'est mettre en évidence les rouages d'un ordre social qui prétend gérer nos vies, nous soumettre à l'État, et désamorcer, assimiler, digérer toute déviation, colère ou révolte. Nous rêvons d'une société sans maître ni esclave, sans coupable ni victime, sans juge ni condamné.
Vous écoutez Bruit de tôle sur Canal Sud 92.2, donc en direct le jeudi de 19h à 20h et en rediffusion le vendredi de 17h à 18h. Donc, au sommaire de ce bruit de tôle, nous allons d'abord vous parler des prisonniers et prisonnières kanaks et du sort qui leur est fait, notamment pour celles et ceux qui ont été transférés dans l'Hexagone. Nous vous parlerons après de ce qui se passe un peu pour les sans-papiers en France, avec notamment l'expulsion d'enfants géorgiens, des sans-papiers grévistes à Vitry qui sont reconnus comme des victimes. Et nous continuerons de vous parler du collectif de mineurs isolés de Belleville, donc, qui a été une fois de plus expulsé. Et nous terminerons l'émission avec des choses d'actualité et nos traditionnelles annonces. Donc pendant l'émission, vous pouvez nous appeler au 05 61 53 36 95, de préférence pendant les pauses musicales. Et cette semaine, c'est Billie Holiday qui va nous accompagner de sa belle voix grave.
Shall get them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grave. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Mm-hmm. feeling such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. His own. He just don't worry about nothing, 'cause he's got his own.
Voilà, et on démarre Bruit de Tôle avec des nouvelles de l'état colonial français et donc de la Kanakee, dernière, une des colonies françaises qui se trouve à plus de 25 000 km du pays. Et en 2024, vous n'êtes pas sans avoir su qu'il y avait eu une grande insurrection contre les injustices et inégalités sociales. En fait, ça a abouti à 2530 gardes à vue, 502 déferrements devant la justice, 650 convocations qui ont été aussi différées devant la justice, 243 incarcérations, 520 mesures alternatives et 600 classements sans suite. C'était donc le bilan judiciaire de l'insurrection qui a eu lieu au mois de mai-juin 2024 à Nouméa, enfin en Kanakee. Pendant ces semaines de tension, on a dénombré 14 morts directes, des dégâts matériels, alors qui sont évalués à plus de 2 milliards d'euros par les autorités locales, donc par le colonisateur. Le couvre-feu, lui, progressivement allégé, en fait, n'a été levé que début décembre, donc on parle du mois de juin à décembre, et les rassemblements, défilés et cortèges restent encore interdits aujourd'hui, au mois d'avril 2025, c'est-à-dire un an après. Le 17 mai, tandis que des militants politiques et syndicaux étaient assignés à résidence, le réseau social TikTok était bloqué dans l'archipel et de nombreux et importants renforts de police étaient envoyés. C'est alors que le ministre Éric Dupond-Moretti a adopté une circulaire qui préconisait une réponse pénale empreinte de la plus grande fermeté, rapide et systémique. Il fallait en effet affirmer l'autorité de l'État, même si on est loin. Mais seulement c'était un peu difficile puisque les routes étaient coupées et les interpellations délicates, on ne pouvait pas passer. Alors, bah, c'est pas grave, des hélicoptères Puma étaient déployés pour aller chercher les gens qui étaient accusés soit de recel, de vol et qui se trouvaient à 200 km de là pour pouvoir les juger à Nouméa. Des audiences qui ont été en comparution immédiate et aussi en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Ça, c'est encore plus expéditif, hein. C'est-à-dire que tu es déjà jugé avant de comparaître, puisque il y a une reconnaissance préalable de culpabilité. Bon, le parquet a commencé à afficher une fermeté qui a pour marquer les esprits. En effet, la qualification en réunion qui n'existait plus était maintenant en bande organisée. Les juges, parfois, n'ont pas quand même suivi des réquisitions qu'ils trouvaient un peu trop sévères, notamment certains dossiers qui étaient vraiment très mal ficelés. Donc, il y a eu quand même des relax tellement c'était gros. Mais malgré tout, je vous ai donné les chiffres tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de gens qui ont trinqué. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand même il y avait les loyalistes, ceux d'en face. Ceux d'en face qui ont dressé des barrages que les autorités appellent les voisins vigilants. Je trouve que c'est pas mal, hein, ça fait écho à, dans nos petits villages, là, il y en a qui mettent voisins vigilants. Mais là-bas, c'est les colons qui essayaient de faire une contre-insurrection parce qu'ils trouvaient que la justice était laxiste, donc ils voulaient faire le travail à la place. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les responsables du CCAT, donc, qui est le comité de défense hein, et d'action de ces journées d'insurrection, j'étais en train de dire... Qu'est-ce que j'étais en... Oui, mince, j'ai oublié la phrase, excusez-moi, je me suis coupée dans ma phrase... Placement en détention provisoire, oui, c'est ça. Donc, il faut savoir que tous les gens qui ont été arrêtés, la justice laxiste, les a arrêtés pour trouble à l'ordre public et surtout les a transférés en métropole, ce qui n'a jamais été mis en débat, c'est-à-dire n'était pas discuté avant. Ça a été fait très, très rapidement. Et les 7 indépendantistes qui ont été dispersés dans différentes prisons et placés à l'isolement, 2 d'entre eux ont ensuite été libérés sous contrôle judiciaire, mais ils doivent rester sur l'Hexagone. Donc c'est ce qu'on appelle tout simplement la déportation coloniale. Cette déportation coloniale, c'est un arsenal donc, qu'ils ont déployé pour placer les prisonniers. Alors, c'est 17 000 km, excusez-moi, je me suis trompée de 10 000 km, mais enfin, c'est quand même assez loin. À 17 000 km de chez eux, donc. Donc, les membres du collectif qui étaient mis en examen étaient déportés le soir même aux quatre coins de la France. Pas du tout réunis en un seul endroit, surtout pas. Donc, dans des prisons en France, on sait qu'il y en a du côté de l'Est, à Mulhouse, etc. Donc ça a pour but d'éloigner les prisonniers ayant participé aux émeutes, mais aussi de vider la prison de Caen Est, alors cette prison qui est plus que surchargée. Donc il y a eu plus de 69 détenus depuis le mois de mai 2024. On en avait parlé dans la dernière émission, puisque la déportation, comme on dit, elle se faisait pour certains prisonniers kanaks qui étaient en fin de peine, pour être évalué. Vous savez qu'il faut être évalué si jamais vous pouvez sortir avant la fin de votre peine. Et comme par hasard, il n'y a pas de centre d'évaluation là-bas en Kanaky. Donc les gens étaient obligés de venir en métropole, sachant que ni la famille, ni les avocats, personne ne pouvait suivre. Et c'est là qu'ils étaient évalués et qu'ils pouvaient rentrer et pour leur dire qu'en effet, leur peine, leur longue peine pouvait prendre fin. Donc cette déportation est une punition collective qui met en évidence l'aspect colonial de l'incarcération et la quasi-totalité des déportés, en effet, sont des Kanaks ou des Océaniens, c'est-à-dire que nos voisins vigilants qui se sont pas gênés pour tirer et pour faire aussi des incivilités, entre guillemets, eux ne sont ni en prison ni déportés.
Oui, et puis ils ont quand même aussi tué au moins une personne à l'époque. Donc on va un peu plus du coup se pencher sur cette question de la déportation coloniale et de ses conditions, parce que du coup, ben c'est déjà pour ces personnes qui ont été transférées du jour au lendemain, c'était déjà un choc de partir du coup de la Kanaky comme ça, mais c'est aussi un choc à l'arrivée, puisque ben ils sont transférés entre juin et novembre 2024 sans argent et sans contact avec leurs proches, hein, le temps que l'administration fasse le nécessaire pour mettre à jour leurs données. Et tout ce qu'ils ont pu faire, c'est passer un appel, mais bon, ça a duré, c'est moins de 40 secondes, hein, d'après les témoignages qui ont été recueillis par l'Observatoire international des prisons. Donc, en 40 secondes, qu'est-ce qu'on dit ? Ben, on dit « je suis en France » et la communication coupe, hein. Donc les familles, évidemment, n'ont pas toujours les moyens d'envoyer de l'argent aux prisonniers ici. Donc ils se sont vite retrouvés avec des problèmes d'argent. Donc certains et certaines ne reçoivent que 30 euros par mois au titre de l'indigence, hein, puisqu'il faut savoir que les prisonniers qui n'ont aucune ressource en France touchent 30 euros par mois et donc... qui peuvent leur servir, donc là, dans le cas des prisonniers et prisonnières kanak, à passer des appels et à cantiner, hein, parce qu'on rappelle qu'en prison, si on ne cantine pas, si on se contente de ce qu'on vous sert à manger, ben en fait, la santé va rapidement se dégrader, hein. Et donc si les appels locaux sont déjà chers en prison, hein, puisque en prison tout est plus cher, hein, tous les produits sont surtaxés et donc les appels en prison n'échappent pas à cette règle, les communications téléphoniques vers la Nouvelle-Calédonie, donc Kanaky, sont facturées au tarif international. Donc qui est encore plus élevé que celui qui va pour les dom-toms. Donc en gros, les prisonniers et les prisonnières ne peuvent échanger que quelques minutes avec leurs proches. Monsieur E indique « Ma fille me manque. Au pays, les conditions de détention étaient très dures, mais j'avais ma famille. Je trouve ça dégueulasse de la part d'un pays qui prône la liberté, l'égalité et la fraternité de traiter ses citoyens de la sorte. » Et donc l'isolement est d'autant plus grand que la plupart n'ont aucune famille dans l'Hexagone. Et Du coup, Monsieur C précise, c'est très dur avec le climat, la distance, le harcèlement des surveillants. Je suis allée à l'hôpital pour un lavage d'estomac à cause d'une overdose d'eau de Javel. Du coup, on met ces gens dans une détresse et matérielle et psychologique qui fait que ben elles s'en prennent parfois à elles-mêmes. Un autre monsieur O qui est atteint de graves troubles psychiatriques qui ont été diagnostiqués avant son incarcération a été transféré le 22 juin. Ils m'ont fait tomber dans un avion sans me donner mon traitement. Se souvient le jeune homme qui était condamné à 18 mois d'emprisonnement en mars et par ailleurs père de deux enfants en bas âge. Son état s'est dégradé évidemment pendant ses premiers mois de détention dans l'Hexagone, hein, forcément sans traitement. Sa mère est parvenue à venir en France et elle témoigne en disant « Au parloir, je l'ai découvert très amaigri et en plein délire. Il portait les mêmes vêtements que quand il est parti. Il n'avait aucun habit de rechange et il ne m'a pas reconnue. » Bon, certains notent quand même une certaine amélioration de leurs conditions de détention au regard de celles catastrophiques du camp Est. Donc la prison est... Il et elle étaient incarcérés avant en Kanaki, mais bon, toutes les personnes transférées dans l'Hexagone ne sont quand même pas de cet avis. Monsieur I dit « Le respect de la dignité, c'est une chose, mais il y a aussi notre famille, le droit d'être près de nos enfants, de nos femmes, de nos maris. Être enfermé à 17 000 km de ses enfants, c'est atroce », témoigne une autre militante indépendantiste, dont Brenda Wanabo, dont la détention provisoire a été levée, mais qui reste placée sous contrôle judiciaire, donc dans l'Hexagone, donc elle ne peut pas retourner en Kanaky. Et donc, ça crée aussi une inquiétude, parce que à savoir comment ils vont pouvoir retourner chez eux une fois qu'il et elle sortiront de prison, puisque l'administration pénitentiaire ne semble pas avoir proposé de solution de retour à la sortie de prison. Le code pénitentiaire le prévoit, hein, que l'établissement peut procéder ou participer à l'acquisition d'un titre de transport pour les personnes qui n'auraient pas un solde suffisant sur leur compte nominatif pour pouvoir rentrer chez eux à leur sortie de prison. Mais évidemment, c'est pas du tout une mesure obligatoire. Et a priori, les personnes transférées depuis la Kanaky n'ont pas du tout reçu d'informations dans ce sens. Hein. Monsieur C'est dit, ils m'ont dit qu'à la fin de la peine, c'est nous-mêmes qui devions financer le retour. Je ne veux pas finir à la rue ici en France. Je n'ai aucune famille ici et je n'ai jamais voulu venir. Donc, bon, on leur dit déjà que ça ne va pas être possible. Et comme le dit l'Observatoire international des prisons, en éloignant soudainement des dizaines de prisonniers de leur point d'ancrage, les transferts ont parfois mis en péril des parcours judiciaires, avec des audiences qui se sont tenues en l'absence des personnes condamnées et des parcours d'exécution de peine. La circulaire du 21 février 2012 prévoit pourtant qu'avant un transfert, le greffe de la prison vérifie systématiquement qu'il n'y a pas transmission par le SPIP ou le parquet d'une demande d'aménagement de peine pour qu'il soit, le cas échéant, sursis à l'exécution du transfert de la personne détenue jusqu'à ce qu'intervienne la décision judiciaire. Force est de constater que ce principe n'a pas toujours été respecté.
Donc, non, parce que des fois, c'est du jour au lendemain qu'ils ont été transférés immédiatement.
Presque. Et oui. Et donc, une avocate du barreau de Nouméa indique qu'on avait un client qui était en pleine procédure d'aménagement de peine. La demande avait de bonnes chances d'être acceptée, mais ils l'ont fait partir, on ne l'a pas compris. Donc, son client a dû refaire une demande dans l'Hexagone lorsqu'il a pu rétablir le contact avec elle, hein, ce qui ne s'est pas fait tout de suite. Il a perdu ainsi plusieurs mois et l'espoir d'une réinsertion, sur le caillou, comme on nomme la Kanaky. Quant à ceux qui n'ont pas les moyens de maintenir le contact avec leur avocat, ils doivent d'abord en trouver un autre sur place pour pouvoir envisager un nouveau projet d'aménagement de peine, si tant est qu'ils arrivent à se projeter sur une sortie de prison à 17 000 km de chez eux. Heureusement, il y a quand même des choses positives qui se passent. Il y a des opérations de solidarité qui s'organisent et il y a notamment plusieurs associations regroupées dans le collectif Solidarité Kanaky qui se mobilisent pour les aider à prévenir leurs proches, à trouver un avocat, leur apporter un soutien matériel. Des efforts considérables sont déployés pour localiser et identifier les personnes récemment arrivées. puis pour leur faire parvenir ce dont elles ont besoin, faire entrer... Mais bon, c'est pas toujours évident, parce que faire entrer des colis en détention et envoyer des mandats, c'est pas facile pour d'autres que les proches des personnes détenues, hein, parce qu'il faut obtenir pour ça un permis, et quand on n'est pas un proche des personnes détenues, c'est beaucoup plus difficile à obtenir. Et donc, juste dernier point, c'est que les effets de ce soudain déracinement du pays, ils s'étendent aussi aux proches des personnes incarcérées, hein, qui le subissent aussi. Parce que si le coût des appels téléphoniques est prohibitif, celui d'une visite, pour la plupart des personnes restées en Kanaky, c'est hors de portée. Hein. Et pour rejoindre l'Hexagone, il y a quand même plusieurs... personnes, notamment des compagnes et des mères, hein, qui n'ont pas hésité à s'endetter, voire à vendre tout ce qu'elles possédaient, hein, pour rejoindre leurs proches incarcérés. Donc Nathalie dit « J'ai perdu mon travail, vendu ma voiture et mes affaires pour payer le billet et lui acheter des vêtements. » Et donc certaines ont décidé de tout quitter pour rejoindre leurs proches, donc sans savoir quand elles rentreront. Et certaines n'ont pris donc qu'un billet à aller, sans savoir combien de temps ça allait durer.
Oui, ça, c'est vraiment les méfaits de la déportation, hein, et de la colonisation. On pourra aussi parler de Christian Antin. Christian Antin, indépendantiste, qui a été élu président du FNLKS, mais qui fait partie du CCAT. CCAT, c'est la cellule de coordination des actions de terrain. C'est-à-dire que quand l'insurrection est partie, il faut le rappeler, contre... Alors, la vie est extrêmement chère et les autochtones sont complètement exploités et exclus des mines d'or, c'est du nickel là-bas, mais en tout cas de l'argent que peut rapporter la colonie. Et donc ils en avaient marre, et c'est pour ça qu'ils ont... C'est des émeutes de la faim, c'est des émeutes de survie, c'est des émeutes par rapport à l'inégalité. Et Christentin, lui, lorsqu'il a été... déporté, se considérant prisonnier politique, a fait un recours à la Cour de cassation, mais celle-ci a bien rejeté sa demande. Lui, il contestait, parce que c'est la détention provisoire, hein, en plus, hein, quand ils sont en Hexagone, c'est pas des condamnations encore. Hein. Et lui, il s'est retrouvé dans le Haut-Rhin, à Mulhouse-Lutterbach, et immédiatement mis en examen, alors lui, pour 7 chefs d'accusation, complicité de tentative de meurtre, vol en bande organisée avec armes, participation, association de malfaiteurs. On voit que n'est absolument pas tenu en compte le fait que c'était une insurrection sociale et des manifestations. Hein. La Cour de cassation donc avait annulé une première décision de placement en détention, mais la Cour d'appel de Nouméa avait confirmé un mois plus tard cette mesure, et 3 arrêts seront rendus par la Cour d'appel pour le maintenir en prison. Donc c'était à préciser. Et à Paris, il y a les audiences qui vont avoir lieu, puisque, comme je vous ai dit, qu'ils étaient prévenus et non pas condamnés. Et les audiences ont lieu au tribunal de Paris, sur le parvis du tribunal de Paris. Et il y a un appel à soutien sur le parvis de ce tribunal, j'y arrive. C'est 139 rue de Douaumont, dans le 17e à Paris, avec des audiences qui vont se succéder. Alors, il y en a eu une le 13 mai, il y en a le 19 mai, le 20 mai, le 22 mai, le 27 mai, le 28 mai et le 3 juin. Donc, au nom de la solidarité anticoloniale, il est appelé à toutes les personnes qui pourront, dès 10h le matin, se rendre devant le tribunal sur le parvis dans le 17e à Paris. Voilà.
Et donc, on peut aussi dire quand même que malgré l'interdiction de se rassembler, de manifester, ces jours-ci, il y a quand même un mouvement là-bas aussi. Les gens, malgré l'interdiction, sortent et n'hésitent pas à faire savoir leurs revendications.
Oui, continuer à revendiquer, en effet, c'est pas les arrestations et la répression qui va empêcher les gens d'être en colère, ça c'est sûr.
Thank you.
Vous écoutez toujours Brutale sur Canal Sud. Vous a mis un peu de douceur dans ce monde de brutes et de fachos. Pourquoi je pense à Retailleau quand je dis ça, je ne sais pas. Mais bon, on a du coup un climat un peu délétère en France en ce moment. Et il n'est sans doute pas, avec ses amis d'extrême droite, complètement innocent de ce climat. Et de la situation qui est faite aux personnes qui n'ont pas les bons papiers pour rester en France. Et donc, on a trouvé des témoignages d'arrestations de familles géorgiennes en Bretagne. Et donc, on va vous raconter un peu ce qui s'est passé. Donc, c'était au mois d'avril, le mardi 8 avril. Alexandre et Anastasia, donc deux élèves de 6e et de 4e du collège Salvador Allende de Rezé, dans le sud de Nantes, et leur mère ont été expulsées vers la Géorgie. Et elles seraient restées 30 minutes dans le centre de rétention de Rennes-Saint-Jacques, hein, un passage éclair au centre de rétention, puis embarquées manu militari dans un avion. Leur père était absent, donc il y a échappé. On pouvait lire dans Ouest France, donc le journal local, que dans la commune voisine de la Montagne, vers 5h30, sans sommation, c'est un premier couple vivant avec son garçon de 9 ans et sa fille de 15 ans, à qui la police a donné 4 heures pour sortir de l'appartement où il résidait à la Montagne. Le même jour, à Pontivy, dans le Morbihan, une famille géorgienne avait été interpellée lors de son pointage, puis embarquée pour Rennes. Les parents ont d'abord été arrêtés, puis la gendarmerie est partie avec eux réveiller leur enfant qui dormait encore dans leur appartement pour l'embarquer également. Et toujours le 8 avril, à 6h, les gendarmes de Landivisio dans le Finistère ont embarqué un couple de Géorgiens et leur petit garçon. À Quimper aussi, toujours dans le Finistère, une famille géorgienne avec 3 enfants a été embarquée par la police à 6h30 du matin. Pareil à Lorient, où une personne raconte « Une famille que je suivais depuis 5 ans a été embarquée hier aux 115 familles de Lorient. » Donc on imagine le désarroi, même la peur de ces enfants de 6 ans arrêtés à 6 heures du matin et envoyés dans un centre de rétention pour être renvoyés dans leur pays d'origine. Pays que parfois ces personnes ont fui pour des raisons politiques, hein. Donc, c'est un peu tendu. Donc, la Géorgie, bon, ce qui les attend là-bas, c'est sans doute la misère, une vie à refaire dans le meilleur des cas, et pour d'autres, c'est la répression. Et bon, le régime géorgien actuel est quand même considéré comme un des plus répressifs. Donc, un enseignement de ces arrestations, c'est que les préfectures savaient qui cibler sur la base de la nationalité, hein, puisque ce sont toutes des familles géorgiennes, mais aussi sur le fait d'avoir la certitude de trouver ces personnes, puisqu'elles étaient toutes hébergées en CADA. Donc, les CADA, ce sont des centres d'hébergement de demandeurs d'asile, voire certains étaient en logement d'urgence du 115. Bon, il faut savoir que maintenant, que ce soit les CADA ou le 115, ils sont obligés de tenir des fichiers. Donc forcément, l'État y a accès et donc il peut contrôler ces personnes et venir les chercher quand le traitement de la demande d'asile se conclut par un refus. Bon, autour de Nantes, il y a eu beaucoup de protestations, hein, elles ont été nombreuses. Il y a eu notamment un rassemblement devant le collège Salvador Allende, donc de Rezé, le mardi 22 avril, qui a réuni plus de 200 personnes, des professeurs, des élèves, des parents d'élèves, des militants associatifs, des voisins. Et il y a même le principal du collège, hein, qui a adressé un communiqué, enfin une lettre, à l'ensemble des parents d'élèves du collège pour expliquer la situation, hein, et dire que c'était inacceptable et que il demande lui-même carrément au ministère de l'Intérieur, aux services préfectoraux, d'arrêter ces expulsions.
Et surtout ces rafles, parce que ça ressemble à des rafles aussi.
Hein. Oui, c'est vrai.
Ça ressemble, hein, puisque c'est toute la même nationalité au même moment et en nombre, et voilà quoi.
Oui. Mmh.
Bon, il y a ceux qui ne sont pas raflés, qui ne sont pas expulsés, et qu'on exploite et qui travaillent en France. C'est ce qu'on appelle les sans-papiers. Et il y a quand même, au tribunal judiciaire de Nanterre, une petite victoire. En fait, si vous vous souvenez, du mois de novembre 2021 au mois de novembre 2022,
les salariés de société d'intérim qui s'appelle RSI, du côté de Gennevilliers, dans la banlieue parisienne, étaient en grève. Ils avaient maintenu en plus un piquet pendant un an, un piquet de grève assez efficace pour revendiquer des droits de ne pas être exploités et d'être connus aussi comme travailleurs, puisqu'ils travaillaient à plein temps pour ces sociétés. Alors le procès qui a eu lieu les 29 et 30 avril, c'est celui des employeurs. Les prévenus étaient donc les sociétés RSI du Grand Paris et de Gennevilliers. Il faut savoir aussi que 34 personnes parmi les anciens grévistes de 2022, eh bien, s'étaient portées partie civile et ont assisté à tous les débats de façon ininterrompue. Alors, il faut savoir que de temps en temps, il y a une affaire qui surgit et que l'État sanctionne des méchants patrons qui ont eu tort de piocher dans cette main-d'œuvre disponible et vulnérable. Et surtout la plus précaire des précaires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui ont réussi à se cacher, à cacher leur identité ou leur implication directe, ceux qui ont mis des écrans entre les sans-papiers et leur société, eux ne sont pas inquiétés. Ainsi, le PDG de Belvedia, qui est au-dessus et qui gère RSI, lui a été relaxé. Ce sont les familiers des travailleurs, ce sont ceux qui travaillent à côté d'eux qui ont eu des peines de prison avec sursis et des amendes importantes. Et les deux sociétés d'intérim qui sont pénalisées d'une amende de 200 000 euros qui iront dans les caisses de l'État. Mais il faut savoir qu'une trentaine de travailleurs de sans-papiers, eh bien, cette trentaine de personnes a été reconnue comme partie civile. Et ça, c'est intéressant que la justice valide la reconnaissance de victimes de ces sans-papiers. Hein, ça avait été déjà caractérisé par le ministère du Travail. Et aussi, ça permet aussi de reconnaître le droit à la grève et au piquet de grève qui a eu lieu en 2022, puisque c'est grâce à cela qu'ils sont reconnus. Donc maintenant, la préfecture doit tenir compte de leur statut de partie civile, délivrer des autorisations de travail nécessaires pour sortir de la précarité les anciens occupants du piquet de grève. Donc la majorité d'entre eux n'ont toujours pas été régularisés et restent confrontés aux mêmes employeurs et aux mêmes natures d'emploi exploitées. C'était le 30 avril 2025. Alors, ils ont fait grève en 21-22, ça traîne la justice, mais au moins, cette reconnaissance que même sans papier, on peut faire grève et on peut obtenir un statut de partie civile de plainte contre le patron. Et juste une petite info qu'on relaiera après, c'est que face à cette situation des sans-papiers, on peut se trouver démuni. C'est bien maintenant que je devais le faire. Non, c'est pas maintenant.
C'est pas maintenant. Non, c'est mon tour.
Ah, c'est ton tour. Bon, alors tout à l'heure.
Alors, on voulait revenir aussi sur, donner des nouvelles du collectif des jeunes du parc de Belleville, donc, et notamment sur leur expulsion de la Gaîté Lyrique, hein, qui a eu lieu en mars dernier, mais du coup, on n'avait pas lu leur communiqué, donc on va le lire. Nous sommes des mineurs isolés arrivés en France il y a plusieurs mois. Nous avons demandé la reconnaissance de notre minorité qui nous a été refusée après une évaluation rapide. Suite à ça, nous avons été jetés dehors et nous avons déposé un recours devant les juges des enfants. Ces délais de recours sont très longs. Nous devons attendre des mois, seuls dans la rue, parce que l'État n'applique pas la présomption de minorité et ne respecte pas notre droit à un hébergement d'urgence. L'État préfère appliquer la présomption de mensonge qui n'existe pas dans la Convention des droits de l'enfant. Cet hiver, nous avons rencontré le collectif des jeunes du parc de Belleville et nous avons participé à l'occupation de la Gaîté Lyrique entre le 10 décembre 2024 et le 18 mars 2025. Nous n'avons pas notre famille. Nous n'avons personne pour nous soutenir ici en France. Nous sommes allés à la Gaîté Lyrique pour survivre au grand froid en nous mettant à l'abri, pour être ensemble et nous battre pour nos droits. Mais le 18 mars, la préfecture et la mairie de Paris ont décidé de nous expulser sans faire de propositions qui répondent à notre situation. On nous proposait de partir en province pour 3 semaines dans des centres qui ne sont pas pour les mineurs alors que nos recours, nos écoles, nos hôpitaux sont à Paris. Nous avons refusé ces fausses propositions, mais nous sommes sortis de la Gaîté Lyrique avant l'arrivée de la police, en respectant l'arrêté de la préfecture. La police est quand même intervenue violemment le 18 mars. Elle nous a coincés devant le bâtiment avec les soutiens qui ont passé la dernière nuit à manifester avec nous. Sur environ 1000 personnes présentes au moment de l'expulsion, 46 ont été arrêtées arbitrairement et parmi elles, nous sommes 25 mineurs à avoir reçu des OQTF, obligation de quitter le territoire français. Les arrestations se sont faites sur des critères racistes aux abords de la Gaîté Lyrique et au commissariat. Des tris racistes entre personnes noires et personnes non racisées ont de nouveau été effectués, ces dernières étant traitées de façon très privilégiée. Nous, la police nous a attrapés avec violence. Certains ont été frappés alors que nous étions déjà par terre et que nous n'étions pas violents du tout. On nous a mis dans des voitures de police. Parfois, on nous a attachés les mains pour nous emmener au commissariat. Certains ont même été pourchassés dans les rues de Paris et arrêtés plus tard alors que nous étions assis dans des parcs. On nous a arrêtés alors que nous n'avons rien fait de mal, sans aucun motif à part celui de lutter pacifiquement pour nos droits. Au commissariat, on a pris nos empreintes et on nous a demandé notre âge, mais on n'a pas voulu nous croire. La police pense qu'on ne connaît pas notre âge. Ils ont regardé nos documents, comme les cartes consulaires. On voyait qu'on était mineur, mais sur les OQTF, ils ont changé notre âge pour dire qu'on est majeur. On a demandé pourquoi à la police. Elle nous a répondu que c'est la préfecture qui a demandé ça. Depuis que nous avons l'OQTF, la police et la préfecture n'arrêtent pas de nous menacer et de nous harceler. Il y a toujours de nouveaux documents et des nouvelles obligations qui sortent pour nous inquiéter. Certains nous menacent avec des paroles racistes quand nous allons signer au commissariat pour notre assignation à résidence. On nous a dit « Signez pour retourner dans votre pays ». Nous avons beaucoup de mauvaises pensées. On a du mal à dormir la nuit à cause des problèmes qui tournent dans la tête. On a peur tout le temps que la police vienne nous chercher pour nous emmener au centre de rétention. On ne sait jamais quand ça peut arriver. On nous a obligés à dormir dans un centre de l'OFI. Mais on a peur que la police vienne là-bas. C'est horrible de ne pas savoir si on va pouvoir rester ici ou si on veut repartir dans notre pays. Ces OQTF sont politiques. Quand nous allons signer individuellement au commissariat, les policiers sortent un dossier dans lequel est écrit « Gaîté Lyrique ». L'État veut se servir de nous pour faire la guerre à un collectif dans lequel on se bat pour nos droits. Il essaye de nous affaiblir et de nous diviser. Mais on reste unis et le collectif nous soutient. Nous savons que des syndicats, des élus, des députés, des enseignants ainsi que des milliers de citoyens nous soutiennent. Nous ne connaissons pas les OQTF. On ne sait pas comment ça marche. Grâce au collectif, nous avons des avocats, du soutien pour nos démarches et la force de tous. Nous remercions aussi l'association Sous le même ciel qui nous accompagne également pour nos démarches. Nous allons continuer à nous battre pour nos droits. Nous n'avons rien fait de mal. Nous sommes là pour aller à l'école, apprendre un bon métier, travailler. Nous demandons au préfet et au juge du tribunal administratif l'annulation de nos OQTF. Nous demandons la justice. Nous avons besoin du soutien de tout le monde. Nous sommes de mineurs comme vos enfants. Nous demandons votre soutien solidaire et massif pour l'annulation de ces OQTF injustes et arbitraires. Et donc, il faut savoir que depuis donc, cette expulsion, il y a un comité de soutien donc, qui s'est créé, donc qui rassemble pas mal de personnes. Et bon, on pourrait dire que ben, c'est vrai que souvent on relaye les infos de ce collectif des jeunes sans mineurs isolés de Belleville, parce que bon, c'est vrai que leurs infos sont bien relayées sur les réseaux en particulier, et notamment dans les réseaux militants, mais qu'il y a plein d'autres collectifs aussi qui se battent du coup avec et aux côtés des mineurs isolés, notamment le collectif Autonomie à Paris. On sait qu'il y a aussi à Rouen pas mal, il y a aussi un collectif qui sont montés à Rouen pour les soutenir. Ils ont notamment fait un campement devant la préfecture.
Oui, en plus, ce qui nous a intéressé, qui nous intéresse, c'est que ce collectif est autogéré. C'est vraiment les mineurs qui l'ont créé. Mmh. C'est eux-mêmes qui demandent des soutiens, mais qui gèrent leur lutte, quoi. Et ça, c'est important. C'est des gens qui sont debout, quoi, qui réclament. C'est eux qui réclament.
Voilà, c'est... Et en plus, d'autant plus parce qu'ils sont jeunes, donc ils sont auto-organisés comme ça, c'est assez rare, quoi.
Et alors, à Toulouse, il y a aussi le réseau Éducation sans frontières. Alors ça, c'est parce que parfois, on est un peu démunis devant les lois et les pratiques et tout ce qui se fait. Donc si vous êtes un militant ou un professionnel ou une personne qui veut et qui s'intéresse et qui veut aider des personnes exilées, demandeurs d'asile, sans papier ou autre, une formation se met en place
le mercredi 21 mai à 18h30 à la Bourse du Travail Place Saint-Sernin à Toulouse. Accès au travail, santé, démarche en préfecture, surtout voir l'évolution, puisque ça n'arrête pas de changer, des différentes pratiques législatives, réglementaires, politiques qui concernent les personnes migrantes. Donc il suffit de s'inscrire à Réseau Éducation Sans Frontières 31, c'est RESF31 tout simplement, @abri31.org. Mais sinon, vous cherchez donc cette formation qui aura lieu mercredi 21 mai à 18h30 à la Bourse du Travail à Toulouse.
Et on fait une petite pause musicale.
Sur l'acquittement d'une militante basque, enfin pas totalement parce qu'elle a 4 procès contre elle, donc il y en a un des procès qui a rendu une sentence assez inédite parce qu'il y a la reconnaissance de la torture. Donc on en a déjà parlé à cette antenne sur la charge et là, eh bien, ça y est, la justice espagnole a reconnu l'inculpation obtenue par la torture lors du procès de Irache Sorzabal. Donc il faut savoir qu'elle est quand même condamnée à 24 ans de prison dans un premier procès, mais que c'est quand même une avancée importante dans son dossier. Et surtout, c'est la première fois que la torture est reconnue dans l'État espagnol. Elle avait été soupçonnée d'avoir posé un engin explosif à Irún en 95, et la justice a considéré que l'accusée a été soumise à des traitements inhumains lors de sa détention en mars 2001. lorsqu'elle avait été arrêtée par la Guardia Civil. Et que, en fait, ses aveux écrits sont nuls et non avenus, car obtenus par, justement, violation des droits fondamentaux de l'accusé. Et ils reconnaissent, et explicitement, ils parlent de, en effet, mauvais traitement, application d'électrodes, etc. À l'issue de sa garde à vue, donc, elle était mise au secret en 2001. Et Ratchet avait déjà dénoncé au juge d'instruction les mauvais traitements et il y avait même des traces sur son corps qu'on avait pu voir. Et lors de l'audience, elle avait bien précisé « Je n'avais aucun droit là-bas, ils me l'ont fait comprendre. Dès la fouille à Madrid, la Guardia Civil m'a clairement fait comprendre dès le premier coup porté sur moi que je n'avais aucun droit si ce n'est que de survivre. » Voilà, donc c'est intéressant de savoir que la justice reconnaît et condamne cette torture, mais il faut savoir que quand même, à partir de la même, des mêmes aveux obtenus par la torture, 4 procès sont contre elle. Le premier en Madrid, en 2022, elle a été condamnée à 24 ans de prison sur la même auto-inculpation que 2001. Et il faut savoir que si elle est accusée de cette accusation la dernière, il reste encore un quatrième, puisqu'elle avait 4 mandats d'arrêt et que c'est la France qui l'a livrée à l'Espagne, bien entendu. La Cour d'appel de Paris, elle, doit encore se prononcer sur le quatrième mandat d'arrêt européen, et ce qui pourrait déterminer savoir si elle va être encore jugée une quatrième fois à Madrid. Et peut-être qu'on peut penser qu'il pourrait y avoir des recours sur le premier jugement sur les 24 ans de prison, puisque à chaque fois, c'est des aveux obtenus sous la torture.
Alors, on voulait partager avec vous une courte pétition intitulée « Contre le génocide, pour une Palestine libre, non à la dissolution d'urgence Palestine ». Alors que le génocide s'intensifie à Gaza, alors que le siège affame et détruit tout un peuple, que fait l'État français de Macron et Retailleau ? Il prononce l'intention du gouvernement de dissoudre l'une des principales organisations des Palestiniens palestiniennes en France, un des principaux collectifs mobilisés en solidarité avec le peuple palestinien. Cette mesure d'une gravité extrême met en application une revendication portée depuis des mois par Julien Odoul, député du Rassemblement national récemment condamné par la justice. En la reprenant à son compte, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, entérine une politique de répression alignée sur les mots d'ordre de l'extrême droite en France et du gouvernement israélien. Dénoncer un génocide ne sera jamais un crime. Résister face à l'injustice n'est pas un délit. Exiger la liberté pour le peuple palestinien n'est pas une revendication extrémiste violente. Au contraire, c'est une exigence humaine. Nos revendications sont simples. Stop au génocide en Palestine. Non à la dissolution d'urgence Palestine. Oui à la liberté d'expression et à la solidarité internationale. Donc si vous voulez la signer, vous pouvez donc la trouver, elle s'appelle « Contre le génocide, pour une Palestine libre, non à la dissolution d'urgence Palestine ».
Donc en fait c'est un rappel, parce que je pense qu'on en avait déjà lu des termes dans la précédente émission, ça venait juste de sortir, et ben, je sais pas, on espère qu'ils reviendront sur cette idée, mais c'est pas évident. Hein.
Ben, c'est pas le premier collectif qui subit la dissolution, et c'est vrai que ça commence à s'accélérer, ça sent pas très bon.
Oui, mais d'un côté, il y a une espèce de résistance institutionnelle à vouloir interdire la parole ou en tout cas les groupes. Et puis d'un autre côté, là maintenant quand même, ça commence à... On arrive au summum de l'horreur et il y a des voix même institutionnelles, entre guillemets, qui demandent à Netanyahou d'arrêter, il faudrait peut-être arrêter la guerre, etc. Et tout, quoi. Mais moi, ce que je m'aperçois, c'est qu'il n'y a personne qui remet en cause la colonisation. Mmh. Et on a commencé avec la Kanaky, et là, c'est aussi une colonisation. Mmh. Et à chaque fois, c'est... Et on pourrait penser que c'était comme l'esclavage, hein, c'est fini la colonisation. Loin de là, c'est pas fini, et les méthodes répressives sont aussi barbares que celles d'avant, il me semble. Après, ben, méthode barbare institutionnelle, j'en ai d'autres, c'est à moi. Oui. C'est puisque nos prisons, on vous le dit, on n'arrête pas de le dire à cette antenne, les prisons sont surpeuplées. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ben, figurez-vous qu'il y a des pays où elles ne sont pas surpeuplées. Il y a de la place. Ben voilà, tout simplement. Des pays européens comme le Danemark qui va bientôt louer 300 places de prison au Kosovo pour les détenus étrangers condamnés à l'expulsion. les OQTF dont on parle en France souvent. Donc c'est inédit en fait qui aussi plaît à la Belgique, à la Suède, même à la France, et tout cela au mépris des droits et de la Constitution. Alors bien sûr c'est pas Cayenne, mais tout de même c'est inquiétant cette dérive européenne sur l'immigration. Alors on avait déjà vu qu'ils ont créé Schengen pour empêcher que les gens rentrent, mais ils rentrent. Après, il y a eu des sous-traitances pour arrêter les sans-papiers en Libye ou ailleurs, en payant des pays qui font le sale boulot à notre place. Et là, maintenant, eh bien, ce sera des gens qui sont déjà arrivés sur le territoire. Mais comme il n'y a plus de place dans les centres de rétention, dans les prisons, etc., eh bien, on va faire une immigration et un droit pénal qui, pour lutter contre cette surpopulation carcérale, on va les envoyer. Alors là, c'est 300 places à Djilan, au Kosovo, à près de 2000 km donc, de ses frontières. L'accord concerne des migrants soumis à un ordre d'expulsion parce qu'ils ont enfreint la loi. Donc, ils sont souvent condamnés pour des vols ou de la contrefaçon ou détention de substances illicites. Ces détenus donc, finiront leur peine au Kosovo avant d'être expulsés dans leur pays d'origine. Il faut dire que depuis 2021, l'allocation de places de prison pendant 10 ans pour la somme de 200 millions d'euros a été actée par un accord de coopération avec le gouvernement kosovar. Et donc, ça envoie un signal clair aux criminels, disent-ils. Leur avenir n'est pas au Danemark, ils ne devraient pas purger leur peine ici. Et c'est ainsi que s'en félicitait le ministre danois de la Justice. L'accord signé avec le Kosovo prévoit qu'une partie de la somme qui va être payée, puisqu'ils vont payer les locations des prisons là-bas sur place, eh bien ça servira à améliorer les institutions pénitentiaires du pays et aussi à des projets d'énergie renouvelable. Tiens, 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 voilà notre greenwashing qui débarque. Donc malgré cette touche de verre, le comité contre la torture de l'ONU a dit que quand même c'était des pratiques dégradantes. Certains soulignent que en fait les prisons sont pas si vides que ça, qu'il y a déjà une surpopulation au Kosovo et donc ça va être des conditions horribles d'accueil. Le Danemark n'est pas le seul à envisager la déportation de certains prisonniers. Ainsi, le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, estime qu'il n'y a pas pour le moment aucun contre-avis juridique, donc à sous-traiter l'incarcération. C'est également le cas de la Suède, qui prospecte, et l'Estonie, par exemple, a fait acte de candidature, en disant, ben nous, on veut bien vous louer des... Alors la cellule, la location mensuelle d'une cellule serait de 3500 euros. Et début avril, le ministre belge de la Justice avouait aussi être séduit par cette idée. Donc, que ce soit la Belgique, qui elle déjà a transféré des détenus aux Pays-Bas, eh bien, ça se ferait là pour l'instant au sein de l'espace communautaire. Mais enfin, quand même, l'espace communautaire, comme on a vu du Danemark au Kosovo, il y a 2000 km. Donc, déjà, voilà. Donc, depuis 2008, une décision de l'Union européenne acte en effet le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires prononçant une peine de prison. D'accord. Au niveau européen, quand tu es condamné dans un pays, c'est reconnu partout. D'accord. Le texte autorise ainsi un pays membre à exécuter une peine de prison prononcée dans un autre pays. Ben, ça, c'est autre chose. Parce que là, pour l'instant, eux, ce qu'ils veulent, c'est les déporter, quoi. Je trouve qu'ils jouent un petit peu. Donc voilà le monde de demain.
Alors, du coup, on arrive à la fin de cette émission. Donc, on va terminer avec quelques annonces. Donc d'abord, une soirée de soutien pour payer les frais de justice de personnes inculpées pour une ouverture de squat. Donc ça se passe demain, vendredi 16 mai, à l'impasse de 19h à minuit. Il y a deux concerts, DJ, un bar, des crêpes, un infokiosque, une cantine, tout à prix libre, avec trois groupes, donc les Gutbugs, Punk Toulouse, Basseville, du Queercore de Grenoble et DJ Licks. Donc toujours un groupe de Toulouse, donc en soutien à des personnes inculpées pour une ouverture de squat, donc le vendredi 16 mai de 19h à minuit à l'impasse, un impasse La Pujade.
Et puis, pour lutter contre ces fascismes, il existe des antifa-fests. Par exemple, il y en a une dans le 32 dans le Gers. Elle aura lieu les 30 et 31 mai 2025. Alors, il y a des concerts et des conférences. Le vendredi, c'est une conférence sur les postures et l'imposture de l'extrême droite au niveau du travail. Et c'est la CGT qui en parlera. Et après, il y a un concert avec El Comuniero. Et Lyon, Liap, du rap et la Nistérique. Bon, et puis samedi 31, conférence aussi à 14h sur le populisme animé par Yves Peyra. Et puis à 17h, face à la répression d'État, il y aura Gwenola Ricordo et des ex-membres de la GAL et ex-membres de Palestine Vaincra. On espère que ce sera. Voilà. Et puis il y a un concert, L'Inconsolable. Donc ça, c'est dans le Gers. Ça se passe où? Je cherche le lieu. T'en rappelles? Ah, mais je trouve plus sur leur affiche.
À Auch, tout bêtement.
À Auch.
Bah oui, c'est à Auch. Salle Léva, rue du Général de Gaulle, à Auch. Voilà.
Et puis aussi, je rappelle, le 17 mai, c'est-à-dire ce samedi, c'est à Alzin, en Ariège, l'Antifa Fest Ariège. La journée est consacrée à des ateliers de réflexion. Et dès 18h, il y a un accueil, il y a de la musique, il y a du rap, etc. Resto et des stands antifascistes locaux, voilà. Donc ça permet de peut-être essayer de se retrouver entre gens en colère et en lutte.
Donc c'est Bruitall qui se termine. Donc vous nous écoutiez en direct le jeudi de 19h à 20h. La rediffusion c'est le vendredi de 17h à 18h. Donc on se retrouve le premier jeudi de juin. En attendant, vous pouvez nous écrire à Bruitall Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse, ou à Bruit de Tôle, bruit au pluriel, de Tôle, D-E-T-O-L-E-S, @no-log.org. Et donc, on vous dit à bientôt pour de nouvelles infos sur l'enfermement. Je l'ai déjà dit, oui. Le premier jeudi du mois de juin, et en attendant, on souhaite bon courage à toutes les personnes enfermées.
La liberté, c'est toute l'existence, mais les humains ont créé les prisons, les règlements, les lois, les convenances, les ateliers, les bureaux, les maisons, et les raisons, alors disons, mon vieux copain, la vie est belle. Quand on connaît la liberté, n'attendons plus, partons vers elle. L'air pur est bon pour la santé, partout, si l'on en croit l'histoire, partout. On peut rire et chanter, partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Pourquoi faut-il se compliquer la vie pour de l'argent, se faire des cheveux, alors qu'on peut vivre à sa fantaisie? Quand on est libre, on fait tout ce qu'on veut, on est heureux selon ses voeux. Mon copain, la vie est douce, vivons ce que vivent les fleurs, ne pas en foutre une secousse. C'est là le secret du bonheur partout, si l'on en croit l'histoire partout. On peut rire et chanter partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Il ne faut pas songer au mariage quand on est fait pour courir les chemins. En attendant d'être assagi par l'âge, contentons-nous d'amour sans lendemain. C'est le destin, mon vieux copain, la terre est ronde. Les femmes vont de tous côtés, quand on sera au bout du monde, il sera temps de s'arrêter partout, si l'on en croit l'histoire partout. On peut rire et chanter partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté.